Vous êtes bien sur CFM. Le musée Soulages accueille jusqu'au 13 septembre des œuvres d'Hiroshi Sugimoto, un photographe japonais qui vit aux États-Unis. C'est l'expo temporaire d'été du musée. Marc Feustel y a donné une conférence il y a plusieurs jours. Je suis allé le rencontrer. C'est un grand spécialiste international de la photographie japonaise. Et ma première question a été toute simple, hein. C'est quoi la photographie japonaise ?
Ah, mais ça, c'est une question. Je dois vous dire que ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à la photographie japonaise. Et plus je m'y intéresse, moins je suis capable de répondre à cette question-là. La photographie japonaise, c'est une photographie qui est infiniment complexe. C'est un des pays, un des grands pays photographiques, dans le sens où c'est vraiment un des pays où le médium s'est développé le plus. Et la photographie japonaise a de très nombreux visages, et c'est très difficile de résumer ça à une idée, à une approche, à une esthétique.
Ma question, elle est plus compliquée que si je vous posais la même avec la photographie française ou la photographie allemande ou pas ?
Ben, je pense, d'une certaine manière, la question est plus compliquée parce que je pense que le terme photographie japonaise est très lourd de sens pour un occidental, pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on entend photographie japonaise, on a tout de suite des images en tête. On a tout de suite des choses auxquelles on s'attend. Alors, c'est pas toujours les mêmes choses pour tout le monde. Parfois, les gens attendent, disons, cette idée de la perfection japonaise, du zen, de l'esthétisme, de l'épurement, du minimalisme. D'autres ont une idée plus de la photographie de rue qui est associée avec, par exemple, Daido Moriyama ou Araki, qui sont peut-être les deux photographes japonais les plus connus au monde, et qui ont une esthétique beaucoup plus brute, plus crue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un terme neutre. Quand on va regarder, par exemple, le travail de Sugimoto, je pense pas qu'on le regarde de la même manière si on n'a pas ce contexte de photographie japonaise qui vient se poser dessus.
Alors, vous voulez dire par là, oui, Sugimoto, qui est un photographe contemporain, il est toujours en vie, hein, oui. Bien sûr. Il s'inscrit pas forcément dans une lignée, une tradition de la photographie japonaise. Il est un peu plus iconoclaste, un peu marginal, peut-être pas.
Non, pas marginal, mais je pense que Sugimoto, c'est un bon exemple, disons, du côté problématique de l'idée de la photographie japonaise, dans le sens où Sugimoto est japonais, il vient d'une famille japonaise, il est né au Japon, mais Sugimoto, il devient artiste aux États-Unis. Donc il étudie la photographie en Californie. À partir de ce moment-là, non seulement il étudie la photographie en Californie, mais c'est là qu'il fait tous ses premiers projets photographiques. Il s'installe aux États-Unis. Donc il déménage, il quitte la Californie après ses études pour New York. Et c'est à New York, en fait, qu'il va vraiment se trouver en tant qu'artiste. Donc la question se pose un petit peu de est-ce qu'on peut qualifier sa photographie de photographie japonaise, sachant aussi que non seulement au niveau de son éducation artistique et de sa pratique, mais le fait que ses sujets, au départ, ce n'est pas des sujets japonais, ce n'est pas des paysages japonais ou des personnes au Japon. Et donc, dans ce sens-là, je dirais que Sugimoto, c'est un cas pas singulier, parce qu'il y a d'autres exemples de ça, mais qui montre un petit peu que la photographie japonaise n'est pas forcément quelque chose qui est produit au Japon par un Japonais. Ça peut être quelque chose qui parle de quelque chose de beaucoup plus universel ou même de spécifique, mais d'une autre partie du monde. Je pense que ce qui caractérise Sugimoto, c'est un terme qu'un critique américain avait utilisé pour un autre photographe, qu'il avait qualifié de bilinguiste visuel. Et cet autre photographe, qui s'appelle Yasuhiro Ishimoto, il a un parcours aussi similaire dans le sens où il est né aux États-Unis, il a grandi au Japon, mais il a fait toutes ses études aux États-Unis dans une école, le Chicago Institute of Design, qui est une école qu'on appelait le nouveau Bauhaus, donc une éducation artistique européenne. Et ce que voulait dire ce critique-là, en fait, c'est qu'on voit dans le travail les influences culturelles différentes qui sont autant présentes les unes que les autres. Et je pense que Sugimoto, il y a de ça aussi, dans le sens où il y a des sujets qui sont très japonais. On pense au pain, par exemple. On pense à son travail sur les Bouddhas dans le temple à Kyoto. Même à son esthétique qui se rapproche justement du minimalisme que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a aussi une influence importante de l'art conceptuel, de ce qui se faisait aux États-Unis dans les années 70, et des sujets qui sont aussi très universels, que ce soit, je sais pas, le cinéma, la mer, des choses qui sont pas spécifiques au Japon.
Alors, cette exposition, pour nous ici, rue Ténoir, ou touristes, de passage à Rhodes, Sugimoto, bon, c'est une découverte. Comment vous nous situeriez cette exposition aussi ici au Musée Soulages par rapport à d'autres expositions consacrées aux mêmes photographes, mais ailleurs dans le monde ? On a de la chance ou quoi ?
Ah ben oui, absolument. Ce que je trouve très intéressant avec cette exposition, c'est qu'on parle de photographie, bien sûr, mais Sugimoto est un artiste avant tout. Après, cette ligne est parfois difficile à cerner. C'est quelqu'un qui s'exprime principalement par la photographie, pas uniquement, parce qu'il y a aussi des objets qu'on voit dans la salle d'exposition. Il est également architecte, ce qui n'est pas rien. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'exposition, c'est que comme nous sommes au musée Soulages, on a forcément une rencontre entre le travail de Soulages et le travail de Sugimoto. Ce qui est souvent n'est pas le cas dans des expositions temporaires, dans des lieux d'exposition, disons, qui accueillent uniquement une exposition et où il n'y a pas ce dialogue qui se crée. Ce que je trouve très intéressant, c'est que même si ces deux artistes ne sont pas contemporains, il y a beaucoup de fils conducteurs qu'on retrouve dans leur œuvre, plastiquement, qui a très peu de choses à voir, l'une avec l'autre, à quelques exceptions près peut-être, mais on voit au niveau des grands thèmes qui sont évoqués dans leur travail qu'il y a des résonances très intéressantes.
Certaines des photos qui sont donc présentées ici au musée Soulages, pour quelqu'un qui débarque, qui se balade, il prend ça pour des peintures.
C'est tout à fait possible. En effet, Sugimoto, même si son travail est toujours photographique, il est souvent dans un processus de détournement de ce qu'est la photographie. Quand on pense à la photographie, les photos qu'on prend tous, de plus en plus souvent tous avec nos téléphones, c'est des images instantanées. C'est juste un instant qui est figé comme ça, qu'on peut garder une petite tranche de vécu comme ça. Mais Sugimoto, au contraire, dans ces images, c'est souvent pas le cas. Par exemple, ici, on se trouve devant les seascapes, donc les paysages de mer de Sugimoto, qui sont parfois des images réalisées en un trentième ou un soixantième de seconde pour les images qui sont prises de jour. Mais il y a des images qui sont prises de nuit, qui sont prises sur plusieurs secondes, plusieurs minutes en quelques cas. Donc c'est des choses qui sont impossibles pour nous à voir de l'œil nu. On ne peut pas voir ça en allant à ces endroits, on ne peut pas avoir le même vécu visuel, si vous voulez. Il y a d'autres exemples aussi dans l'exposition où ce sont des photographies à proprement parler, mais où il n'y a pas d'appareil photo qui intervient, par exemple. Il y a une série d'œuvres où Sugimoto, en fait, de sa main, va écrire un poème sur un papier photographique en utilisant la chimie photographique. Donc, effectivement, ça peut être très déboussolant de voir, de se dire qu'on est toujours confronté à de la photographie dans plusieurs cas où on a l'impression d'être dans un médium qui est différent.
Alors, vous avez parlé de rencontres entre Pierre Soulages, ses œuvres et le travail de Sugimoto. Comment vous la qualifieriez, cette rencontre ? Ici, par exemple, ici, dans le musée.
Pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment, je pense, dans la manière dont ces deux artistes tendent vers une certaine abstraction ou vers une certaine, un certain dépouillement dans leurs images. Bien sûr, ça s'exprime de manière très différente au niveau de leur création artistique, mais au niveau des idées qu'ils poursuivent, il y a des résonances qui sont très intéressantes. On connaît bien sûr l'outre-noir de Soulages, qui est, disons, sa marque de fabrique, la chose pour laquelle il est plus connu, et ce cheminement qui l'amène vers ça, où il se rend compte que dans le noir, il y a une infinité de possibilités. Et ce qu'on voit beaucoup dans le travail de Sugimoto, c'est d'essayer de réduire au maximum la lumière pour que la lumière puisse s'exprimer. Donc, On pense par exemple aux images qu'il a réalisées dans des cinémas ou
qui sont présentées en tout cas un certain nombre là, derrière nous dans une salle dédiée.
Oui, tout à fait. Où il va faire une prise de vue photographique durant tout un film. Donc ça va être pendant 1h30, 2h, ce sera une seule photographie. Et encore une fois, où à l'œil nu, on ne pourrait pas avoir l'image qu'il crée de cette manière-là, mais d'un coup, on a cet écran illuminé qui semble presque projeter la lumière de manière presque violente, et tout autour, un monde d'ombre qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus ténébreux, on peut dire. Et c'est souvent le cas avec lui, où il cherche cette lumière, disons, atténuée pour pouvoir ensuite aller dedans, se plonger dedans pour trouver quelque chose qui s'y passe qu'on pourrait pas forcément déceler juste en le regardant à l'œil nu.
Cette exposition est aussi présentée dans le cadre plus général des 200 ans de la photographie. 200 ans après le début de la photographie, des premiers clichés, elle en est où la photographie après 200 ans? Ça fait un certain âge.
C'est intéressant quand même parce que on est donc au musée Soulages, qui n'est pas un musée de la photographie, loin de là. Et quand on pense à la photographie qui est maintenant pleinement acceptée comme un art visuel, en fait, la photographie est dans son enfance ou peut-être son adolescence, d'une certaine manière, par rapport aux autres pratiques des arts visuels. Donc, même si 200 ans, ça peut paraître très long, d'une certaine façon, d'une certaine manière, la photographie est toujours en train de se révéler, de se trouver, de trouver d'autres chemins de pratique, etc. Moi, ce que je dirais, c'est surtout ces dernières années, la technologie a eu un impact colossal sur la trajectoire de la photographie et bien au-delà de... Je vous parle pas du domaine de l'art photographique, mais juste la photographie en tant que médium, comme on le pratique tous. Mmh. Que ce soit le numérique, maintenant, bien sûr, on parle beaucoup de l'IA, la manière dont la photographie est maintenant partout dans avec nous tout le temps, les utilisations dont on en fait, la manière dont les images circulent, qui sont principalement maintenant pas des objets, mais juste des données, des 1 et des 0. Donc il y a eu énormément de choses sur très peu, un temps très restreint, qui ont eu des impacts très importants sur où en est la photographie. Moi, ce que je dirais, c'est que d'une certaine manière, la photographie, ce qui la différencie de, disons, de la peinture, de la sculpture, c'est que la photographie est une technologie à la base. Et que depuis sa naissance, cette technologie est en évolution perpétuelle. Et donc, je dirais que l'état naturel de la photographie, c'est une crise existentielle. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train d'être chamboulée par une technologie ou une autre. Et on peut se dire que, je ne sais pas, pour prendre l'exemple du jour, que l'IA est en train de tout changer, mais finalement, les équivalents de l'IA qui arrivent, on les a vus déjà arriver tellement de fois par le passé, que ce soit dans la possibilité de reproduire les choses photographiquement à l'infini. Ça a un impact colossal sur la manière dont on conçoit la chose. Donc finalement, en fait, cette crise existentielle, elle est, je pense, assez naturelle pour la photographie. Et je pense qu'elle va continuer à exister de cette manière-là, c'est-à-dire à être chamboulée, à être bousculée, pour prendre des chemins auxquels on ne pouvait pas s'attendre auparavant, avant ces bouleversements technologiques.
Je l'ai dit, bon, vous êtes un grand spécialiste de la photographie japonaise, vous êtes éditeur, créateur vous-même, commissaire d'exposition aussi, j'ai vu. Là, en repartant de Rodez et de l'Aveyron, c'est quoi sinon vos projets, les prochains rendez-vous avec vous, que ce soit ici ou ailleurs, partout dans le monde, pourquoi pas?
Le projet sur lequel je suis actuellement en train de travailler, c'est une exposition d'un autre photographe japonais qui a exposé plusieurs fois en France et qui est assez apprécié par le public français, qui s'appelle Shoji Ueda. Et je prépare une exposition qui va avoir lieu au mois d'octobre à Tokyo, dans le cadre d'un festival photographique, qui va le mettre en lien, encore une fois, une rencontre d'artistes avec une jeune photographe qui vient de la même région que lui, la préfecture de Tottori au Japon. C'est une préfecture très reculée sur la mer du Japon et qui a hérité d'un certain nombre de tirages de la part de Ueda et qui s'en a inspiré. Donc là, je suis en train de travailler sur sur cette exposition-là. Et je viens tout juste de terminer la direction d'un livre collectif d'essais, justement, sur la photographie japonaise et sur la manière dont on l'aperçoit depuis l'Occident. Le livre, qui malheureusement n'existe pas en français, mais en anglais et en japonais, s'appelle « More than one world », « Plus qu'un seul monde », qui réunit une quinzaine de critiques, de chercheurs, de commissaires, de directeurs de musées qui se penchent sur la question de... ça fait 50 ans qu'on connaît la photographie japonaise en Europe et aux États-Unis. Et comment est-ce que notre perception de celle-ci a évolué dans le temps ?
Dernière chose, on peut vous suivre ? Vous êtes très... aussi Instagram quand même. Vous êtes très réseaux sociaux ou pas ?
Non, je vous avouerai que Instagram, j'y suis encore, mais un petit peu malgré moi.
D'accord.
Vous trouverez à mon nom sur Instagram si vous le souhaitez. Je crois que c'est marc.feustel, mon compte Instagram, mais j'ai également un site internet, marcfeustel.com, qui réunit un petit peu... toutes mes activités passées, pas à venir, parce que j'ai jamais le temps de mettre à jour ce site, mais voilà.